Je veux juste rebondir sur une autre chose. Et c'est un, en plus, ce sont des endroits où, effectivement, on se repose la question que se posaient les Grecs et que se posaient certainement les hommes des cavernes. C'est, quand on voit tout ça, est-ce qu'on est tout seul? Et je disais tout à l'heure qu'on est dans une période où la technologie peut-être nous permettra bientôt de répondre à cette question. Jusque-là, on était persuadé qu'il n'y avait que le système solaire dans notre galaxie. Je vous rappelle qu'on vit dans une galaxie, enfin on vit sur Terre, mais on fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, qui contient à peu près 300 milliards d'étoiles. Et le Soleil est une petite étoile dans cette galaxie. Et jusqu'en 1995, enfin 1995, on ne connaissait que le système solaire. On ne savait pas qu'il y avait d'autres planètes autour d'autres étoiles dans notre galaxie. Ça a été découvert à Genève. Donc, c'est pour ça que maintenant on est un peu fiers. Et depuis, les découvertes se sont accumulées. On en est à 4400. On sait qu'il y a... Et maintenant, on est convaincu, du point de vue observationnel et théorique, que quasiment toutes les étoiles de notre galaxie possèdent des planètes. Ça veut dire qu'il y a au moins 500 milliards, voire 1000 milliards de planètes dans notre galaxie. Je vous rappelle qu'il y a 500 milliards de galaxies dans l'univers, donc ça en fait des planètes. Hein. Je veux dire, donc, prétendre qu'on est la seule planète où la vie est plus développée, peut-être un petit peu prétentieux. Mais voilà, elle est où? Elle est où? Et c'est ça le gros problème. Et alors maintenant, on commence à avoir des instruments qui nous ont permis de détecter des planètes aussi petites que la Terre, aussi rocheuses que la Terre, et dans des endroits qu'on appelle des zones habitables, c'est-à-dire où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, où l'eau pourrait être sous forme liquide. Le problème, c'est qu'il faut aller voir sur cette planète. Et on est en train de construire, parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si elle est dans l'atmosphère. On imagine difficilement une planète rocheuse sans atmosphère où la vie aurait pu se développer. Mais de nouveau, je vous dis ça parce qu'on a le modèle de la Terre. Peut-être que c'est complètement différent, on n'en sait rien. On était persuadé, il y a 25 ans, que les petites planètes se formaient près de l'étoile, comme la Terre, et les grosses planètes, comme Jupiter, Saturne et compagnie, se formaient loin de l'étoile. Et la première exoplanète qu'on découvre, elle tourne 4 jours autour de son étoile, et elle est aussi grosse que Jupiter. Donc il a fallu tout revoir. Hein? C'était vraiment, attendez, là, il y a quelque chose qui ne joue pas, vous êtes trompé, etc. Et avec le temps, on est en train de découvrir que la nature est extraordinairement diversifiée. On a trouvé des systèmes planétaires qui n'ont absolument rien à voir avec le nôtre, etc. Bon. Donc on a trouvé des planètes Terre qui sont rocheuses et qui, on suppose, on commence à avoir, à dire, il y a peut-être une ou deux qui ont une atmosphère. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans cette atmosphère, s'il y a de l'oxygène et d'un apport d'eau qui sont les deux biomarqueurs. Ça ne veut pas dire que si on trouve ça, on aura trouvé la vie. Mais on aura trouvé des endroits où c'est possible qu'il y ait de la vie. Et pour ça, il faut des gros instruments. Et je vous disais qu'on est justement dans une période qui est fascinante, parce que les Américains sont en train de construire un télescope spatial qui fera 6,50 m de diamètre. 6,50 m de diamètre, c'est un truc comme ça, hein, je veux dire, c'est énorme. Mais on n'a pas de fusée assez grosse pour l'envoyer, donc on va le plier, on plie le miroir, il l'envoie dans l'espace, et il déplie le miroir dans l'espace, c'est un truc de dingue. Et les Européens ne sont pas en reste, eux, ils sont en train de construire un télescope au Chili qui fait 40 mètres de diamètre. 40 mètres de diamètre, ça veut dire que c'est une patinoire. Hein, c'est une patinoire et qu'il faut pointer les étoiles, etc. Et avec ces deux engins, on espère non seulement voir s'il y a des atmosphères, mais de voir ce qu'il y a dedans, l'oxygène et la vapeur d'eau dont on parlait, et de voir le début de l'univers. Alors ça, c'est encore une autre question. Avec le télescope américain, on espère voir les premières étoiles et les premières galaxies, comment se sont formées les premières galaxies. Donc faire le lien entre ce que sont en train de chercher, et c'est pour ça que Genève est une ville intéressante, il y a plein d'autres trucs, hein, il y a des trucs qui sont moins drôles, hein, le climat par exemple, c'est parce qu'on a le CERN et qui nous montre ce qui s'est passé au début de l'univers, et nous, avec ces grands télescopes, on va peut-être voir ce qui s'est passé 300 000 ans après le début de l'univers, au moment où la matière s'est formée. Donc vous voyez, on est dans une période de l'astronomie qui est extraordinaire en ce moment. Donc si vos étudiants n'ont pas de boulot dans le théâtre, dites-leur faire de l'astronomie, parce que en ce moment ça bouge.
Non mais du coup je pense là l'argent dépensé pour fabriquer ces formidables télescopes, etc. Alors, en Afrique par exemple, vous voudrez construire des théâtres, vous continuez à appuyer ce développement de technologie qui nous permet d'aller regarder les étoiles très loin, etc.
Non, j'en sais rien. Je vais dire oui, les gens cherchent à vivre et tout ça, comme ici d'ailleurs. Les gens cherchent à vivre. Il n'y a pas de, jugement de valeur par rapport aux sommes astronomiques qui peuvent être consacrées à cela, parce que ça crée aussi des choses qui participent à l'évolution de la qualité de notre vie. Voilà, je suis assis aujourd'hui, j'ai reçu ce matin de mon petit frère au village les images. De ma dernière vache qui a mis bas, gratuitement. J'ai pu organiser toute une série de choses comme ça avec lui par WhatsApp. Donc ça c'est, voilà, il n'y a pas à opposer l'avancée du progrès de l'homme à la connaissance de lui-même et du monde par rapport à les urgences d'aujourd'hui. Bon, je ne suis pas dans cette opposition. Mais ce dont nous parlons, on peut bien voir dans les cosmogonies africaines, dans les mythologies africaines, dans les récits anciens et qui cela encore se traduisent aujourd'hui, cette même fascination et cette même quête du sens par l'observation de ce qui l'entoure et par l'observation de l'univers. Le texte encore de Césaire, qui est un texte très animiste, hein, je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes convulsions. De quoi parle-t-il ? Il parle de cela, d'une certaine façon. Et dans toutes les cosmogonies africaines traditionnelles, ce rapport à l'espace, à l'univers, au monde invisible, de l'autre côté du monde, ça fait partie de la réalité quotidienne des gens. Ça fait partie aussi de leur signification pour pouvoir s'orienter, se vivre, créer leur rite, leur mythe et forger aussi leur devenir. C'est extrêmement important. Bien sûr, ils sont pris, et c'est ça qui est quand même toujours fascinant dans l'histoire des humanités. En même temps que nous sommes pris dans les urgences quotidiennes de vivre et d'augmenter la qualité de notre vie, en même temps la part de rêve la plus puissante a toujours existé. Et se concrétise chez les chercheurs. Qui s'en relâche, continue quand même à chercher. Regardez le mot fascinant qu'on fait aujourd'hui sur la recherche médicale, sur le cancer, par exemple. Les bons fascinants qu'on fait sur le développement du numérique et ce que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui, etc. Et pourtant, à côté de ça, il y a les urgences quotidiennes de la question de la démocratie, des libertés, la question de l'éducation, la question que posent les gilets jaunes, à savoir comment terminer les fins de mois. C'est le paradoxe et c'est la complexité de l'aventure humaine. Résoudre ceci, mais tout en rêvant que nous sommes des titans qui explorons l'univers et l'espace.